Lizzie présente Contagion de Lawrence Wright, lu par Antoine Thomé. Ce livre rend hommage au courage et à l'ingéniosité des hommes et des femmes qui ont dédié leur vie au service de la santé publique. La contagion se riait de toute médecine. La mort faisait rage dans tous les coins. Et si cela eût continué de même encore quelques semaines, la ville eût été vidée de tout ce qui avait une âme. Les hommes, partout, commençaient à désespérer. La peur leur faisait défaillir le cœur. L'angoisse poussait chacun à bout, et les terreurs de la mort se lisaient sur les figures, dans l'expression des gens. Daniel Defoe, Journal de l'année de la peste. Traduction Francis Ledoux, Gallimard, 1959. Première partie, Congolie. Chapitre 1, Genève. Un groupe de responsables de la santé publique était réuni dans un grand auditorium genevois pour la dernière conférence de l'Assemblée mondiale de la santé. Les gens dans l'assistance ne tenaient plus en place, fatigués par les longues journées de débats et inquiets de savoir s'ils allaient manquer leur vol. L'attentat de Rome avait mis tout le monde à cran. L'avant-dernier intervenant parlait d'un étrange cluster d'adolescents décédés dans un camp de réfugiés en Indonésie. Hans quelque chose. Un Néerlandais. Grand, arrogant, bien nourri. Une tignasse d'un blond grisonnant débordait par-dessus son col et les peluches sur ses épaules brillaient sous la lumière projetée du PowerPoint. Une carte de l'Indonésie apparut à l'écran. Plus de 17 000 îles. Une entité quasi ingouvernable. 47 certificats de décès ont été émis durant la première semaine de mars au camp numéro 2 de Congolie, à Java-Ouest. Hans indiqua l'emplacement avec son pointeur laser et fit défiler des images de réfugiés démunis, vivant dans des conditions sordides. Le monde regorgeait de populations en exil. Des millions de gens tassés dans des camps construits à la va-vite, enfermés comme des prisonniers, avec trop peu de nourriture et de rares installations médicales. Pas étonnant que les épidémies se répandent dans des endroits pareils. Le choléra, la diphtérie, la dengue. Les tropiques mijotaient toujours quelque chose. Forte fièvre, sécrétion pleine de sang, transmission rapide, taux de mortalité extrême. Mais ce qui distingue réellement ce cluster, dit Hans en faisant apparaître un graphique, c'est l'âge médian des victimes. D'ordinaire, les infections touchent aléatoirement toutes les générations. Mais ici, les cas de décès sont bien plus nombreux dans la catégorie de gens la plus résistante de la population, en théorie. Dans le vaste auditorium de Genève, l'assemblée de responsables sanitaires étudiait l'étrange diapositive, la curiosité piquée au vif par cette anomalie. La plupart des maladies mortelles tuent les plus jeunes et les plus vieux. Mais au lieu de former un U, ce graphique épousait vaguement la forme d'un W, avec un âge moyen de décès estimé à 29 ans. D'après les rapports sommaires sur l'épidémie initiale, on estime le taux de mortalité globale à 70%. Maria Savona, directrice du département d'épidémiologie de l'OMS, brisa le silence confus.
Des cas pédiatriques ou natales ?
Largement représentés dans l'étude démographique, répondit Hans.
Une possible transmission sexuelle ?
Demanda une médecin japonaise.
Peu probable, dit Hans.
Il prenait du plaisir. À présent, son visage se trouvait devant la lumière et projetait une ombre massive sur la diapo suivante.
Le nombre de décès recensés reste constant sur les semaines suivantes, mais le total général a baissé significativement.
Dans ce cas, c'est un événement ponctuel, conclut la japonaise.
Avec 47 victimes, sacrée orgie.
La médecin japonaise rougit et se couvrit la bouche en gloussant.
« Très bien, Hans, tu nous as assez tenus en haleine, » dit Maria avec impatience. Hans balaya l'assistance d'un regard triomphal.
« La shigellose !»
dit-il sous les exclamations incrédules.
« Vous auriez trouvé si le vecteur de mortalité n'était pas inversé. Ça nous a beaucoup déroutés aussi. Ces bactéries, répandues dans les pays les plus pauvres, causent de nombreux cas d'intoxication alimentaire. Nous avons interrogé les autorités sanitaires de Jakarta, et d'après eux, en situation de famine, les jeunes sont les seules personnes capables de mettre la main sur les ressources alimentaires limitées. Dans ce cas, c'est cette force qui a causé leur perte. Notre équipe en a déduit que le pathogène provenait probablement du lait cru. Nous voyons ça comme une mise en garde contre les stéréotypes démographiques qui peuvent nous empêcher de voir des faits autrement évidents. »
Hans quitta l'estrade sous de faibles applaudissements tandis que Maria appelait le dernier intervenant sur scène. Celui-ci prit la parole.
« Les campylobactères dans le Wisconsin. »
Soudain, une voix impérieuse l'interrompit.
« Une violente fièvre hémorragique aurait tué 47 personnes et disparu sans laisser de traces. »
Quelques 200 têtes se retournèrent pour repérer d'où provenait ce grondement sonore. À la voix, on aurait pu croire que Henry Parsons était un grand gaillard. Pas du tout. Il était petit, mince et légèrement voûté, des suites de rachitisme infantile. Ses traits et son ton professoral semblaient étrangement démesurés dans un corps aussi modeste, mais il se comportait avec la prestance d'un homme qui savait ce qu'il valait, malgré son apparence rabougrie. Ceux qui le connaissaient parlaient de lui avec une touche d'émerveillement amusé et l'appelaient « Air Doctor » ou encore « le petit despote » derrière son dos. Il était capable de faire pleurer les internes qui n'arrivaient pas à préparer correctement un échantillon ou qui passaient à côté de symptômes uniquement pertinents à ses yeux. Mais c'était lui, Henry Parsons, qui avait dirigé l'équipe internationale durant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Il avait retrouvé le premier patient avéré, le prétendu patient zéro, un petit garçon guinéen âgé de 18 mois qui avait été infecté par des chauves-souris. On racontait beaucoup d'histoires à son sujet, et on aurait pu en raconter bien d'autres encore s'il avait seulement cherché la notoriété. Dans la bataille sans merci contre les maladies émergentes, Henry Parsons n'était pas un petit homme, mais un véritable géant. Hans quelque chose plissa les yeux et repéra Henry dans la pénombre des rangées du haut.
« Ce n'est pas si étrange, docteur Parsons, si l'on prend en compte les causes environnementales. Vous avez employé le mot « transmission ». »
Hans sourit, ravi de rejouer à ce petit jeu.
« Les autorités indonésiennes ont d'abord soupçonné un agent viral.
Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis ?» demanda Henry. Maria était intriguée. Tu penses à un cas d'Ebola ?
Si c'était le cas, on verrait probablement des déplacements vers les centres urbains, dit Hans. Ça n'apparaît pas. Il a simplement suffi d'éliminer la source de la contamination et l'infection a disparu. Vous êtes-vous rendu sur le site en personne ?
Demanda Henry. Avez-vous prélevé des échantillons ?
Les autorités indonésiennes se sont montrées pleinement coopératives, répondit Hans avec dédain. Une équipe de médecins sans frontières se trouve actuellement sur place et nous recevrons des informations sous peu. Ne vous attendez pas à des miracles. »
Hans attendit un instant, mais Henry recula dans son siège en se tapotant pensivement les lèvres du doigt. L'intervenant suivant reprit la parole.
« Dans un abattoir de Milwaukee, »
tandis que quelques auditeurs se faufilaient vers la sortie en regardant l'heure. La sécurité allait sûrement être renforcée à l'aéroport.
« Je déteste quand tu fais ça », dit Maria lorsqu'ils arrivèrent dans son bureau.
C'était une pièce élégante, pourvue de grandes vitres, avec une jolie vue sur le Mont Blanc. Une volée de cigognes, qui venait de franchir l'obstacle alpin, décrivit des cercles dans le ciel avant d'atterrir sur les bords du lac Léman, première étape de leur migration printanière en provenance de la vallée du Nil.
« Quand je fais quoi ?»
Maria se pencha en arrière et tapota son doigt sur ses lèvres pour imiter le geste de Henri.